Vous êtes sur RTL.
Faire.
RTL Matin
avec Yves Calvi.
Il est 7h43, merci à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin le lieutenant-colonel Antoine en charge du détachement militaire français sur l'aéroport de Kaboul et le lieutenant-colonel Nicolas, pilote d'A400.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RTL. Je précise que pour des raisons de sécurité, nous ne donnons que vos prénoms. Et je commence avec vous, lieutenant-colonel Nicolas. Vous êtes l'un des pilotes des avions militaires français qui ont donc rapatrié précisément 2834 personnes, dont une très grande majorité d'Afghans. Lieutenant-colonel, vous avez travaillé dans des conditions très difficiles. À chacune de vos rotations, vous deviez aller très vite avec des manœuvres très complexes, nous a-t-on dit. C'était montagneux. Racontez-nous comment ça s'est passé.
Oui, tout à fait. Il s'agissait de missions très éprouvantes puisque on partait de la base aérienne d'Al Dhafra pour se rendre à 3h30 de vol, à peu près 2500 km à Kaboul, qui est situé dans une région très montagneuse. Le terrain de Kaboul lui-même est à 1800 mètres d'altitude, entouré de montagnes très élevées qui dépassent pour certaines 4000 mètres, ce qui nous impose beaucoup de contraintes aéronautiques. Et ensuite, on avait à nouveau effectivement 3h30 de vol pour rentrer sur la base aérienne d'Al Dhafra. Donc il s'agissait effectivement de rotations plutôt éprouvantes pour les équipages.
Est-ce que vous avez été la cible de tir sur vos avions? Est-ce que vous les avez craints? Est-ce que vous les avez vus?
Alors, je n'ai pas été la cible et j'ai pas de retour de mes autres collègues d'avoir été la cible de tir. Pour autant, c'est une menace qu'on prenait très au sérieux et qui nous a amené à utiliser des avions qu'on appelle autoprotégés, c'est-à-dire des avions capables de réagir en lançant des leurres, éventuellement un tir de missiles solaires, mais également des avions blindés. Et nous, équipage, portions en permanence pour les atterrissages et les décollages des gilets de combat ainsi que des casques de protection.
Est-ce que vous diriez que c'est l'une des missions les plus périlleuses que vous ayez effectuées dans votre carrière ?
C'est une des missions périlleuses que j'ai effectuées. Après, vous savez, on est engagé sur plusieurs théâtres au cours de notre carrière, à la fois au Sahel, dans le cadre de l'opération Barkhane, mais également au Moyen-Orient. Donc j'ai eu l'occasion de faire d'autres missions périlleuses.
Vous avez dû embarquer, lieutenant-colonel, plus de personnes que la capacité réelle de vos avions, parce qu'il fallait évacuer beaucoup de monde en peu de temps.
C'est tout à fait vrai. On a été amené à embarquer jusqu'à 266 personnes, c'est le chiffre exact, alors que notre avion, qui était un A400M, n'a normalement que 116 places assises certifiées. Alors pour ce faire, on a dû anticiper un petit peu. On a notamment profité de l'expérience qu'on avait acquise lors d'autres crises, notamment l'ouragan Irma il y a quelques années, où on avait été confronté à cette problématique de devoir emporter plus de personnes que le nombre de places normales dans l'appareil. Et on avait mis au point des aménagements de notre soute qui nous ont permis d'emmener les gens dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Lieutenant-colonel Antoine, vous êtes en poste à Abu Dhabi et vous avez été envoyé, vous, à Kaboul le 20 août dernier pour assurer donc le commandement de nos militaires sur place. Vous étiez parti pour évacuer 140 Français. Au final, c'est plus donc de 2800 personnes que vous avez dû évacuer en 13 jours. Et puis, il y a eu l'attentat sanglant à l'aéroport de Kaboul. Est-ce que vous avez eu peur pour votre vie, puis celle de vos hommes?
Alors, on peut pas dire qu'un attentat de cette ampleur qui se passe à moins de 500 mètres de la zone dans laquelle est installé le dispositif français laisse indifférent, bien sûr. Donc, bien sûr, il y a une tension au moment de l'attentat. Néanmoins, c'est une menace qu'on avait en tête depuis les premiers instants de notre présence sur l'aéroport de Kaboul et qui nous était répétée et qui s'est amplifiée au fur et à mesure de la mission jusqu'à arriver à cet événement dramatique. Donc il y a une certaine peur qui se met en place, mais nous sommes préparés et nous savons comment nous devons réagir. Ça ne met absolument pas en péril la mission.
Est-ce que vous avez pu constater, j'imagine, l'état physique et psychologique des passagers, notamment afghans, que vous avez embarqués, des personnes âgées, des bébés? En quoi ça a transformé votre mission? En tous les cas, est-ce que ça a changé sa nature?
Bien sûr, on ne peut pas non plus être indifférent à la détresse humaine et à la violence de la situation qu'ont vécu tous ces gens. Donc nous avons vu des familles déchirées par un arrachement à un pays qui leur est cher, des familles qui ont quitté les oncles, les tantes, les cousins, tout le monde ne peut pas partir dans ces avions. Des familles qui ont attendu des heures, des douzaines d'heures, parfois plusieurs jours devant les portes de l'aéroport, avant de rentrer. Donc ça donne une dimension humaine très forte à la mission. Je retiens en particulier le cas d'un bébé de 4 jours qui a été évacué avec sa mère, qui pouvait à peine marcher. Alors quand on est père de famille, on voit les choses forcément d'une manière très différente et on s'identifie forcément à tous ces gens. Ça nous impose une chose, c'est de considérer ces gens avec la plus grande dignité possible.
C'est l'image que vous retenez, cet enfant, si je comprends bien. Il a fallu peut-être aussi avoir des biberons, des choses que vous n'aviez pas forcément prévues.
Oui, alors effectivement, il a fallu faire face à des situations inattendues. Mais là encore, notre système est bien organisé, bien rodé. Et depuis Abu Dhabi, donc la base aérienne d'Al Dhafra, il y a tout un soutien logistique qui se mettait en place et qui répondait dans les heures qui suivaient à toutes les deux demande logistique que nous pouvions faire. C'était mon rôle sur place, donc de commander ces militaires français et de faire en sorte qu'ils aient tout le matériel dont ils avaient besoin pour remplir leur mission.
Je parlais avec votre collègue, lieutenant-colonel Nicolas, des tirs. Certains de vos collègues nous décrivent des étoiles filantes qui en fait étaient des tirs de roquettes.
Alors effectivement, c'est vrai que moi, j'ai le souvenir personnellement lors de notre premier atterrissage de nuit, dans la nuit du 16 au 17 août, de ces étoiles filantes, effectivement, dont vous parlez et qui ont été vues, effectivement, lors des arrivées de nuit et qui, progressivement, quand on se rapprochait de l'aéroport et qu'on descendait en altitude, il fallait se résoudre à l'évidence que de temps en temps, c'était plus des étoiles filantes qu'on voyait, mais bien des échéances de tir sporadiques au niveau du sol. Donc effectivement, la menace était quand même palpable, même si elle ne semblait pas directement dirigée contre les avions.
Lieutenant-colonel Nicolas, est-ce que à l'atterrissage à Abu Dhabi ou même au moment d'embarquer, vous avez pu échanger avec ces passagers, ces Afghans?
On a effectivement pu, notamment les chefs de soute qui les prenaient en charge au moment de l'embarquement, qui répondaient à leurs attentes en vol. On a effectivement pu échanger quelques mots, des regards également. Et je partage totalement ce que disait Antoine. C'était effectivement très émouvant de voir ces gens qui quittaient avec très peu de bagages leur pays. C'était vraiment quelque chose de très fort, effectivement.
Quelle est l'image la plus forte que vous en ayez conservée?
Je dirais que l'image la plus forte, c'est vraiment, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est de revoir la soute de notre avion qui, normalement, est faite pour 116 personnes, la voir pleine à craquer, si je puis dire, de personnes voilà, qu'on a fait rentrer parce qu'ils souhaitaient partir et qu'on a fait rentrer dans des conditions un petit peu dégradées malgré tout, mais qui semblaient malgré tout contentes d'être à bord.
Lieutenant-colonel Antoine, est-ce qu'en même temps, vous avez une forme de frustration de ne pas avoir pu évacuer plus d'Afghans? On sait que beaucoup attendaient, espéraient. On a vu ces images déchirantes d'Afghans qui s'accrochaient aux roues des avions.
Bien sûr, on est toujours déçu de ne pas avoir pu faire plus. Maintenant, il y a surtout une énorme fierté d'avoir fait tout ce que nous avons pu faire. Une fierté qui est partagée par tous les soldats qui étaient sur place. Donc d'avoir rendu la dignité à ces réfugiés et puis d'avoir évacué au maximum de nos possibilités. Après les décisions politiques, le tempo du désengagement de nos alliés nous échappe complètement. Mais on sait bien que la mission aurait été sans fin. On aurait pu rester un mois, deux mois, trois mois, peut-être une année de plus. Il y aurait toujours eu du monde à évacuer.
Et les regards, ces regards de ces gens qui étaient donc dans cet avion à 400 m notamment, qui étaient entassés forcément pour qu'il y ait le plus de monde possible évacué. Qu'est-ce que vous en retenez?
Alors les regards des gens, on les voyait évoluer dans les différentes étapes de leur périple. Entre la détresse que j'ai décrite tout à l'heure à l'extérieur des portes de l'aéroport et puis le retour à un calme relatif une fois passé les grilles de l'aéroport, sous la protection de l'armée française. Et puis je pense que les soldats qui étaient à Abu Dhabi pour les accueillir à la descente de leur premier avion ont dû pouvoir lire un apaisement encore plus grand au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient de la France.
Merci à tous les deux. Bon courage pour la suite. Merci d'avoir été avec nous sur RTL. Bonne journée à vous.
Des témoignages passionnants et très impressionnants de nos officiers de l'armée de l'air. Après leur opération à Kaboul, ils devaient évacuer, je vous le rappelle, 140 Français. Ils ont sauvé 2800...